Vous êtes avec SBS French.
SBS, a world of difference. You're with SBS French, on mobile, online and on radio.
Vous êtes avec SBS French sur votre smartphone, en ligne et à la radio.
Il est 13h, mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans votre édition française du samedi 18 décembre 2021. Je m'appelle Marianne Murat, je suis ravie de vous accompagner pendant une heure. On va évoquer les dernières actualités australiennes, françaises, internationales et sportives. En deuxième partie d'émission, Europa Voice, présentée par Christophe Mallet, sur le thème de la Nouvelle-Calédonie. Le samedi, c'est aussi le jour de la rétro. C'est arrivé un 18 décembre 1944, la naissance du journal Le Monde. Tout ça, c'est maintenant, c'est pendant une heure. Et pour commencer, votre journal. À la une de l'actualité de ce samedi 18 décembre 2021, 90% des 16 ans et plus totalement vaccinés dans toute l'Australie. Le booster accessible 5 mois après la deuxième dose de vaccin, un record historique de cas en Nouvelle-Galles du Sud et le retour du masque dans le Queensland, c'est la partie Covid. La Tasmanie interdit l'usage des châteaux gonflables jusqu'à nouvel ordre, 2 jours après le décès de 5 enfants. En Allemagne, Friedrich Merz succède à Angela Merkel et prend la tête de la CDU, le parti conservateur, dans un vote à l'unanimité. Et enfin du sport, avec la victoire de l'équipe féminine de handball contre le Danemark en demi-finale de la Coupe du Monde 23-22. Et on débute ce journal avec la propagation du variant Omicron à travers le monde et notamment en Australie. À l'approche des fêtes de Noël et alors que le nouveau variant s'est maintenant répandu dans tous les États et territoires australiens, à la seule exception du Western Australia, les autorités évoquent un enjeu national.
What we know is that there are cases increasing in several states, particularly in New South Wales, but also other parts of the country. And there are some places that are seeing cases for the first time locally transmitted. This is what we knew would happen. There's an expectation that as we opened up as a society, became more attuned to living with COVID, that indeed we have to live with COVID. We will have cases in the community. That is not a surprise.
Vous venez d'entendre le professeur Paul Kennedy, Chief Medical Officer, qui en a aussi profité pour rappeler l'importance de la troisième dose de vaccin. Toutes les personnes ayant reçu leur seconde dose il y a plus de 5 mois sont désormais éligibles au booster. En parlant de vaccin, l'Australie vient d'atteindre un nouveau palier. 90% des 16 ans et plus ont désormais reçu leur double dose de vaccin à travers tout le pays, plaçant l'Australie dans le top 10 de l'OCDE, et ce, on se souvient, malgré un début de campagne vaccinale assez chaotique. Alors, si l'on regarde les chiffres du Covid-19 de plus près à présent, la Nouvelle-Galles du Sud enregistre 2482 nouveaux cas et un décès. Il s'agit du chiffre quotidien le plus élevé jamais enregistré en Australie. De son côté, le Victorien enregistre 1504 nouveaux cas et 7 décès. Et dans le Queensland, les masques sont de nouveau obligatoires dans les transports en commun et certains magasins, alors que l'État enregistre 31 cas ces dernières 24 heures. On écoute les explications de la première, Anastasia Palace.
Masks will be mandatory in shops, retail, Woolworths, Coles. This is a small price to pay for your freedoms. We are asking this to slow the spread of the virus. We know Christmas is some of the busiest times of the year for families doing their Christmas shopping and getting ready. I want Queenslanders to enjoy their Christmas and their holidays.
Et si vous vivez en Australie et que vous économisiez vos jours de congé à cause du coronavirus, eh bien sachez que vous n'êtes pas les seuls. Écoutez bien ce chiffre, il fait tourner la tête. Selon une étude, plus de 8 millions d'Australiens ont combiné un total de 185 millions de jours de congé cette année. C'est 23% de plus que l'année dernière. On reste en Australie et on en vient aux suites de cette terrible actualité survenue en Tasmanie avant-hier. On rappelle d'abord les faits. 5 enfants sont décédés dans une école de Devonport après l'envol du château gonflable dans lequel ils jouaient, causé par une rafale de vent. 3 enfants sont toujours hospitalisés dans un état critique. Heureusement, un 4e enfant qui était blessé a pu rentrer chez lui. Eh bien, sachez que la Tasmanie a depuis interdit l'utilisation de châteaux ou tout autre équipement gonflable, et ce jusqu'à nouvel ordre. Plus $1 million ont été collectés pour soutenir les familles endeuillées. On écoute la maire de Devonport, Annette Rockliffe.
To be honest, I think we're still in shock. Certainly, we're still trying to get our heads around how we could possibly be losing these children. And as has been mentioned, we're a very connected community. Everyone knows somebody. And so I'm already seeing that people wrapping their arms around each other and supporting each other. And I know that will continue.
Direction l'Europe à présent, et on parle du nouveau leader à la tête de la CDU en Allemagne. Friedrich Merz vient d'être choisi pour diriger le pays plus de 3 mois après la défaite des conservateurs aux élections législatives. L'homme de 66 ans, libéral sur le plan économique, conservateur sur les questions de société, a été élu à la majorité absolue. Un vote anti-Merkel selon Paul Maurice. Il est chercheur au comité d'études des relations franco-allemandes à l'IFRI.
Angela Merkel n'a pas su préparer sa succession. Dès 2018, après des défaites électorales dans des Länder de l'Est, elle a dû quitter la présidence du parti et sa dauphine désignée, Annegret Kramp-Karrenbauer, n'avait gagné à l'époque face à Friedrich Merz déjà que parce que les délégués, les cadres du parti l'avaient portée à la tête de ce parti. Et on l'a vu avec le candidat conservateur à la chancellerie, Armin Laschet, en septembre dernier. Elle ne l'a pas assez appuyé. Peut-être, elle n'a pas su lui donner les cartes pour bien mener sa campagne, elle n'a pas su montrer à l'opinion publique que c'était son successeur. Donc peut-être qu'Angela Merkel finalement était encore attachée à ce parti et elle n'a pas su passer la main et elle n'a pas su donner l'autorité à quelqu'un d'autre.
Politique toujours en France à présent, un conseil de défense sanitaire a été organisé à Paris au premier jour des vacances de Noël et alors que le nombre de cas dans l'Hexagone ne faiblit pas. Le Premier ministre Jean Castex s'est exprimé à la sortie et parmi les annonces à retenir, celle du pass sanitaire qui va devenir un pass vaccinal. Simon Rosé pour Radio France Internationale.
La contrainte pèse désormais sur les non-vaccinés. Jean Castex dit l'assumer et au travers lui tout l'exécutif. Début janvier, un projet de loi sera présenté pour transformer le pass sanitaire en pass vaccinal. Seuls ceux ayant leur vaccination à jour devraient donc pouvoir en profiter. 6 millions de Français sont pour l'instant concernés. D'ici là, pas vraiment de nouvelles mesures. Le Premier ministre a simplement appelé à limiter les rassemblements à l'occasion des fêtes de fin d'année. Les festivités et feux d'artifice organisés par les villes seront quant à eux annulés. La vaccination reste donc l'outil principal de la réponse française au Covid-19, la seule arme efficace contre l'épidémie, estime Jean Castex. Un discours qui va à rebours cependant de celui des organisations sanitaires internationales. L'OMS et le Centre européen des maladies en tête qui estiment qu'il s'agit d'un outil loin d'être suffisant, notamment face à la vague Omicron qui approche. Enfin, en attendant la décision de la Haute Autorité de Santé ce lundi sur la vaccination des enfants, le Premier ministre n'a pas eu un seul mot pour l'école. De nombreuses voix appelaient pourtant à prolonger les vacances scolaires. Les 6-10 ans constituent en effet la classe d'âge la plus touchée, avec une incidence supérieure à 1000.
Jean Castex qui a décidé d'annuler son déplacement prévu pour le nouvel an en Jordanie et qui appelle les citoyens à faire preuve de bon sens en limitant leur rassemblement en cette fin d'année. On l'écoute.
Cela passe bien entendu par le respect strict des gestes barrières que vous connaissez par cœur. Cela passe par une recommandation simple. Plutôt qu'un nombre précis, 6, 8 ou 10, appuyons-nous sur un principe de bon sens. Moins on est nombreux, moins on prend de risques. Que ce soit à la maison, dans un restaurant, une salle des fêtes ou un bar, évitons les grandes fêtes, les grands rassemblements ou les grandes idées dont on a vu ces derniers jours, par exemple en Norvège et au Danemark, à quel point il pouvait créer des clusters incontrôlables de diffusion virale. Par ailleurs, j'invite chacune et chacun, vacciné ou pas, à se tester dans les heures précédant ces moments de fête. Il peut s'agir d'un test PCR, d'un test antigénique, mais aussi tout simplement d'un autotest très facile d'utilisation.
Autre déplacement annulé, celui d'Emmanuel Macron, prévu au Mali à partir de lundi. Le président français devait se rendre à Bamako pour rencontrer le président de la transition, Assimi Goïta. Le chef de l'État devait ensuite aller sur la base militaire française de Goa pour le traditionnel repas de Noël avec les troupes. Une annulation que l'Élysée justifie officiellement par la situation sanitaire en France. Fausse excuse, dénonce la politologue Niagale Bagayoko, qui évoque des raisons plus politiques entre Bamako et Paris. Écoutez-la.
Apparemment, il y avait des désaccords profonds entre, d'une part, la France qui affirmait que le président Macron souhaitait discuter de l'arrivée possible du groupe Wagner ainsi que du calendrier électoral, alors que le président de la transition malienne souhaitait exclusivement parler de la situation sécuritaire. Par ailleurs, il semble que du côté français, on souhaitait également la tenue d'un mini-sommet du G5 Sahel. Or, les autorités maliennes ont fait état de leur volonté de limiter les échanges à un format bilatéral. Enfin, il semble qu'il y ait eu des désaccords sur le lieu de tenue de cette rencontre, puisque le président Macron voulait que celle-ci se tienne sur la base de l'aéroport, alors que les autorités maliennes insistaient pour qu'elle se tienne au palais de Koulouba.
Une autre actualité politique française qui a marqué cette fin de semaine, celle de l'annonce d'une éventuelle candidature à la présidentielle de la part de Christiane Taubira. L'ancienne garde des Sceaux pourrait bien prendre part à la course à l'Élysée, c'est ce qu'elle annonce dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux. Il y a des candidatures de personnes de grande valeur pour qui j'ai de l'estime et de l'amitié, mais je constate l'impasse face à une gauche divisée, fin de citation. Alors, cette déclaration ne fait pas l'unanimité à gauche, Aurélien Devernois pour RFI.
Voilà plusieurs jours que l'information circulait sans que l'on sache les intentions réelles de Christiane Taubira. C'est finalement davantage un projet de candidature, voire une menace voilée que l'ex-garde des Sceaux a lancé aujourd'hui.
J'envisage d'être candidate à l'élection présidentielle. Je ne serai pas une candidate de plus. Je mettrai toutes mes forces dans les dernières chances de l'Union. Et je vous donne rendez-vous à la mi-janvier.
En clair, si les actuels candidats de gauche ne se mettent pas d'accord entre eux d'ici un mois, celle qui avait déjà été candidate en 2002 se jettera dans la bataille avec l'espoir de faire l'union autour d'elle, ce qui suscite un certain agacement chez le candidat écologiste Yannick Jadot.
Excusez-moi, c'est quoi le projet de Christiane Taubira ? On nous explique que pour combattre le trop grand nombre de candidatures, il faut plus de candidatures. Il faut oser la faire, celle-là.
Accueil nettement plus favorable chez Anne Hidalgo, qui défend une primaire de la gauche à laquelle elle aimerait voir Christiane Taubira participer.
Débattons. Débattons devant nos concitoyens. Débattre avec celles et ceux qui veulent gouverner ensemble, tout comme avec ceux qui ne veulent pas gouverner avec les autres.
Débattre et créer l'axe des rassembleuses, Hidalgo, Taubira, contre le camp des diviseurs, ceux qui refusent toujours la primaire, Yannick Jadot et Jean-Luc Mélenchon.
Et on écoute justement la réaction du candidat de la France insoumise, Jean-Luc Mélenchon.
Je ne veux pas ni polémiquer, ni rajouter au ridicule de la situation, d'accord ? Parce que fondamentalement, la vieille gauche est mise dans une situation ridicule. Alors, c'est pas à moi d'en rajouter, parce que vous savez, derrière tout ça, il y a des tas de gens que ça désespère, que ça démoralise. Et je leur dis, écoutez, non, regardez, on bosse, on a des choses à proposer, on a un programme, on saura gouverner, vous pouvez me faire confiance, je mérite votre confiance, voilà, déjà parce que je suis sérieux.
Voilà pour la politique. Un point sur la météo à présent de ce samedi 18 décembre. Nuageux à Perth, il fait 23 degrés. Du soleil à Adélaïde, 27 degrés. 31 degrés à Melbourne, mais une chute des températures à prévoir en fin d'après-midi. Chaud et nuageux à Hobart, il fait 30 degrés. Nuageux à Canberra, 32 degrés. Pareil à Sydney, 31 degrés. 29 à Brisbane. Du soleil et 33 degrés à Cairns. Et enfin, 35 degrés à Darwin. Attention au risque de pluie. Le rappel des principaux titres de l'actualité aujourd'hui. 90% des Australiens de plus de 16 ans sont désormais totalement vaccinés, alors que le variant Omicron se répand dans le pays. Les châteaux gonflables désormais interdits jusqu'à nouvel ordre en Tasmanie après le décès de 5 enfants. La France annonce de nouvelles restrictions à quelques jours de Noël et un nouveau leader en Allemagne pour succéder à Angela Merkel à la tête de la CDU.
Vous aimez le programme en français ? Continuons la conversation sur notre page Facebook. Rejoignez notre page Facebook et partagez vos pensées. facebook.com/SBS French.
C'est la fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Dans un instant, le journal des sports. On va parler de la victoire des Bleus au féminin en demi-finale du mondial de handball. On marque une très courte pause. Restez sur SBS French. Le journal des sports avec au menu handball, foot et tennis aujourd'hui. On commence bien sûr avec la finale du mondial de handball et la victoire des Bleus en demi. Les Françaises se sont qualifiées en battant les Danoises 23-22. Menées durant la majeure partie de la rencontre, peu efficaces en attaque en première période, les joueuses d'Olivier Krumbholz l'ont finalement emportée en renversant la tendance dans les 10 dernières minutes. On écoute la gardienne de l'équipe de France, Cléopâtre Darleux.
Franchement, j'ai du mal à y croire parce que ça a été dur, on a galéré, elles ont hyper bien joué en face, franchement elles ont fait un beau match, les gardiennes étaient bonnes en face, on a l'impression que tout leur réussissait, elles récupéraient des ballons, nous toutes les passes dans les pieds, enfin vraiment c'était dur, mais on n'a pas lâché. Et vraiment mentalement je pense qu'on a vraiment passé un cap parce qu'on s'est dit qu'on peut y arriver malgré tout, même moi dans les buts en deuxième mi-temps, ça, je prenais des buts, j'étais là bon bah. Prochain. Et au final, ça a payé parce que c'est sur la fin que ça s'est joué, que j'ai fait quelques arrêts, qu'on a mis des buts, qu'au final, la confiance s'est inversée. Et au final, c'était elle qui, voilà, elle voyait l'équipe, elle nous voyait revenir et je pense qu'elles ont commencé à flipper, quoi.
De son côté, la Norvège a battu l'Espagne. Les Bleus affronteront donc les Norvégiennes demain en finale dimanche, 17h30 heure française, 3h30 du matin heure de Melbourne. Allez, on passe au foot et le match de 32e de finale de la Coupe de France entre le Paris FC et l'Olympique Lyonnais a été tout bonnement annulé. La préfecture de police a annoncé l'arrêt définitif du jeu après des incidents survenus à la mi-temps. En application de la nouvelle doctrine ministérielle et après concertation au sein de la cellule de crise, fin de citation. On termine avec du tennis et pour cela, retour en Australie. Ash Barty et Dylan Alcott ont été couronnés co-gagnants de la médaille Newcomb. Cette médaille est décernée chaque année au joueur de tennis le plus remarquable. C'est la 4e victoire consécutive pour Ash Barty. Ash Barty qui, on le rappelle, a remporté cette année son premier titre en simple féminin à Wimbledon, se hissant ainsi à la première place mondiale. Dans ses remerciements, la joueuse de tennis a rendu hommage à son co-gagnant, Dylan Alcott. Écoutez.
He's the only person to achieve a Golden Slam, and I think it's pretty cool to share that with him after what's been a really incredible year for us as well, and a really rewarding, tough year, but I certainly wouldn't change any of it.
Il est 13h21, dans un instant, la rétro du samedi, c'est arrivé un 18 décembre. Un 18 décembre 1944, on remonte loin aujourd'hui et on vous parle de la naissance du journal Le Monde, ce journal français qui fait toujours aujourd'hui figure de référence. A tout de suite.
Vos conversations. SBS French.
Allez, c'est l'heure de notre rétro sonore dans le programme. Nous sommes le 18 décembre, direction l'année 1944. Le 18 décembre 1944 sortait le premier numéro du journal Le Monde. Le Monde, un journal qui a plus de 75 ans et qui fait toujours figure de référence. Du 18 décembre 1944 à aujourd'hui, retour donc sur l'histoire du journal Le Monde avec des archives de l'INA, l'Institut National de l'Audiovisuel, des extraits d'une infographie du journal en lui-même, mais aussi des extraits de l'émission C'est à vous.
Le 18 décembre 1944, le premier numéro fait son apparition sur deux pages. Restriction de papier oblige en pleine guerre mondiale. Lancé en partie grâce au général de Gaulle, le quotidien trouve son public et contiendra jusqu'à 48 pages dans les années 70.
Dire la vérité même si ça coûte, surtout si ça coûte. Une petite mais belle phrase d'Hubert Bovemery, le fondateur du Monde. Elle résume une philosophie de l'engagement mais aussi l'esprit du journal qu'il faisait naître après-guerre.
Le tout premier numéro coûte 2 francs. Attention, 2 anciens francs, soit 2 centimes de nouveaux francs ou 0,3 centimes d'euros. Comme un clin d'œil de l'histoire, 70 ans plus tard, il s'achète 2 euros. C'est 656 fois plus cher en apparence, mais seulement 5 fois plus si on tient compte de l'inflation. Au départ, le journal s'imprime à 100 000 exemplaires et le tirage moyen atteindra les 550 000 dans les années 70.
Avec Bruno Roger Petit, un portrait de Bovemery et l'occasion d'un coup d'œil sur un journal qui se veut également une institution.
Il ne courait pas après les honneurs, il n'aimait pas que l'on parle de lui, il se voulait discret. En fait, Hubert Bovemery n'avait qu'une passion, Le Monde. Un journal, son journal, fondé en 1944, une passion quotidienne devenue institution, l'ambition un peu folle d'un journaliste de talent qui signait Sirius et qui rêvait à la libération d'un grand journal vraiment indépendant.
Je crois que l'indépendance du Monde, qui était évidemment une de ses caractéristiques essentielles, était et reste liée surtout à un besoin. Un besoin qui était extrêmement vif en 1944, au lendemain de la guerre, alors que toute la presse française avait subi plus ou moins fortement les incidences de l'occupation hitlérienne.
Bovemery a fait du Monde une institution aux traditions solides. Ainsi, par tradition, la conférence de rédaction se tient debout. On décide du contenu du journal dans cette position sans que personne n'ait le droit de s'asseoir pour gagner du temps sur le temps.
Sur son chemin, le journal a connu des pointes à plus d'un million, le plus souvent lors de grands scrutins nationaux. Le séisme du 21 avril 2002, avec Jean-Marie Le Pen au second tour de l'élection présidentielle. La réélection 2 semaines plus tard de Jacques Chirac. Les élections législatives de 1981. Et en troisième position, toujours en 81, l'élection de François Mitterrand, premier président socialiste de la 5ème République. Juste devant, les attentats du World Trade Center le 11 septembre 2001 sont les seuls événements non électoraux de ce classement. Enfin, le record est détenu par la réélection de François Mitterrand en 1988, avec 1 087 709 exemplaires.
Bonsoir Florence Aubenas.
Bonsoir.
Grand reporter au Monde depuis 2012, à vos côtés Luc Bronner, journaliste de la rédaction du Monde depuis 2001 et directeur de la rédaction depuis juin 2015. Merci d'avoir accepté notre invitation à dîner à l'occasion de la publication de ce magnifique coffret, Les Trésors Cachés du Monde. Vous vous souvenez de la date de la première parution du Monde, forcément ?
Oui, 19 décembre 44.
18 ou 19 décembre ?
Alors ça dépend, Le Monde, vous savez, c'est daté du lendemain. Donc nous-mêmes, on se perd dans les publications, puisqu'on fait tous les jours un journal qui est daté du lendemain.
Du lendemain, avec ces mots, un nouveau journal paraît Le Monde. Sa première ambition est d'assurer aux lecteurs des informations vraies et dans la mesure du possible, rapides et complètes. En 2019, est-ce que vous ajouteriez un mot à ces lignes où elles sont toujours valables ?
Elles sont parfaites.
Elles sont parfaites ?
Oui, tout est là, parce qu'il y a l'idée de la précision et de la réaction sur l'événement. Donc effectivement, ça ressemble. À l'époque, il y avait deux pages.
Hein. Oui, c'était même sur une page recto verso.
Aujourd'hui, le tirage s'est stabilisé à 300 000 exemplaires. Mais même à ce niveau, si on déroulait les bobines d'un journal moyen de 2014, on pourrait relier Paris à Avignon. 300 000 exemplaires, c'est la diffusion du journal. Mais les lecteurs sont en réalité beaucoup plus nombreux. Pour le seul quotidien papier, les études d'audience avancent le chiffre de 2 millions de lecteurs. À cela s'ajoute le lectorat de M, le magazine du Monde. Et puis, il y a aussi les visiteurs du numérique, internautes et mobinautes. Au total, plus de 15 millions de personnes. Cependant, Le Monde n'échappe pas à la crise de la presse. Et depuis 2001, sa diffusion a baissé d'un quart. Mais dans le même temps, le nombre de pages vues chaque mois sur le site a explosé, avec une augmentation de 2300% en 13 ans. Cette hausse phénoménale est du même ordre sur mobile, mais en 5 ans seulement. La liste des articles les plus lus dans l'histoire du monde.fr tranche avec les records du journal papier. Les internautes montrent un goût particulier pour la mort et le sexe. L'affaire entre François Hollande et Julie Gayet. La mort de l'actrice Valérie Benguigui. Dans un autre registre, la carte des prénoms les plus donnés en France.
Alors, si tu fais Mali 2 points, la mort de soldat, interroge.
Non, mais ça ne rentrera jamais.
Interroge la stratégie française. 13, on peut l'écrire en chiffres, non?
Comment ça se passe une matinée type dans la rédaction du Monde?
Alors, il n'y a pas vraiment de matinée type puisque l'actualité peut bouger à peu près tout le temps. On est quand même tenu par des horaires puisque le journal est bouclé à 10h30 tous les jours. Et donc là, on est dans les dernières minutes du bouclage avec l'envoi de la une et du journal qui part à l'imprimerie.
Le bouclage, c'est 10h30 précise.
Oui.
Et ça se joue à une minute près, Luc Brunner.
Oui, la vérité, c'est qu'on est parfois un petit peu en retard. On peut le dire, mais c'est vrai que ça a des conséquences puisque le journal est ensuite imprimé, 200 000 exemplaires, ça prend du temps. Et ensuite, le journal surtout est distribué. Il faut qu'il arrive le plus vite possible dans les kiosques à Paris, dans les grandes villes et dans l'ensemble du territoire.
Votre communauté, vos conversations. SBS French.
Dans un instant, Europa Voice, présenté par Christophe Mallet. On va parler de la Nouvelle-Calédonie après le non au référendum sur l'indépendance. Quelles conséquences pour l'Europe? Réponse dans un instant. Restez sur SBS French.
Europa Voice numéro 90 et surtout dernier numéro pour l'année 2021. Et comme à chaque fois, je suis avec Nathanaël Bloch. Salut Nathanaël.
Salut Christophe.
90, hein. Déjà, on est arrivé au bout de 2021. Une année un peu compliquée, mais on l'a fait.
Une année avec beaucoup de Covid, mais aussi beaucoup d'Europe. Donc, on perd pas le Nord.
Ouais, c'est clair, c'est clair. Allez, aujourd'hui, on va parler d'Europe, mais d'une façon pacifique. Et quand je dis pacifique, avec une vision très pacifique, puisqu'il y a eu le référendum d'autodétermination en Nouvelle-Calédonie. Un référendum très important, hein, ultra important pour la France, mais aussi très important pour l'Europe, parce que il y a très peu de pays européens qui ont un pas dans le Pacifique comme la France peut l'avoir avec la Polynésie et également donc les îles comme la Nouvelle-Calédonie. Référendum avec un résultat unilatéral, c'est ce qu'on peut dire.
Oui, Christophe, tout à fait. En fait, on a eu la troisième et dernière consultation dans le cadre de l'accord de Nouméa qui date de 98. Et les électeurs, cette fois-ci, puisque vous savez qu'à chaque fois, il y a une question qui est posée aux Calédoniens, les électeurs devaient répondre à la question suivante. Voulez-vous que la Nouvelle-Calédonie accède à la pleine souveraineté et deviennent indépendantes? Et on a eu un résultat, j'allais dire, de dictateur, hein, parce que plus de 90%, 95% et des brouettes ont répondu non à cette question, sachant que pour les deux premières consultations, on avait eu simplement 57% environ pour la première en 2018 et 53% pour la dernière consultation en octobre 2020. Ouais. Donc effectivement, là, on a un score qui va à contre-courant des deux premiers résultats, mais pour des raisons bien simples, hein, c'est qu'il y avait tout simplement eu un appel des indépendantistes à boycotter ce scrutin, donc personne ne pensait vraiment que les Calédoniens allaient répondre oui à cette question par rapport à leur souveraineté et indépendance.
Ouais, alors on va faire juste un tout petit peu de rétropédalage pour bien comprendre l'intérêt de tout ça. On en a beaucoup parlé, hein, au sein du programme de Radio SBS en français, donc de ce référendum et de ce processus donc de référendum à travers toutes les années. Il faut se rappeler que c'est vraiment quelque chose qui remonte à plus d'une trentaine d'années. Il y a vraiment eu les événements, ce qu'on appelle les événements en Nouvelle-Calédonie, qui ont forcé un peu l'État français à regarder le problème calédonien et la question calédonienne en face. Et là, par contre, on arrive à l'achèvement, au bout du bout du processus qui a été lancé à la fin des années 80. Donc, je serais tenté de dire quid de ce qui se passe maintenant, du jour d'après, parce que le résultat, même si certaines parties, donc les indépendantistes, ne sont pas du tout contents avec ce résultat, je serais tenté de dire qu'au niveau de l'État français, le résultat est donné. Donc, il risque de se passer quoi à partir de maintenant pour cette île, pour le caillou calédonien?
Alors, vous avez raison, Christophe, hein, de faire un peu d'historique par rapport aux événements en Nouvelle-Calédonie. Alors, pour nos auditeurs d'SBS, effectivement, on remonte à 1988. On avait eu à l'époque la prise d'otage, puis l'assaut contre la grotte d'Ouvéa qui avait fait plusieurs morts. Et c'est ce qui avait effectivement commencé, j'allais dire, l'enclenchement entre la France, la métropole et la Nouvelle-Calédonie, qui avait donné lieu aux accords de Nouméa en 98, et donc ces scrutins prévus au nombre de 3 pour que les Calédoniens se décident ou pas d'une pleine souveraineté et de leur indépendance. Le problème qu'on a là, Christophe, j'allais dire, il est double. Le premier problème, c'est que en fait, c'est la première fois véritablement, pour des raisons purement calendaires, que on a cette question calédonienne qui s'invite aussi abruptement dans la campagne présidentielle. C'est-à-dire que, en fait, c'est Emmanuel Macron, déjà pendant ses 5 ans de présidence, qui a dû faire face à ces 3 scrutins, ce qui n'était pas arrivé à ses prédécesseurs avant. Et puis là, on le voit bien, hein, cette question calédonienne, elle ne va pas s'arrêter maintenant. Elle va devoir être gérée par le président de la République. Donc ça, c'est le premier élément. C'est-à-dire que on n'a jamais eu un président de la République qui doit et qui va devoir autant gérer cette question calédonienne et ne pas la renvoyer au calende grec, si je puis m'exprimer ainsi. Et puis la deuxième question, c'est qu'effectivement, on est arrivé au bout de ce processus avec ces 3 référendums, et donc on doit penser le jour d'après. C'est-à-dire qu'est-ce qui va maintenant arriver alors qu'on a eu tout ce processus démocratique référendaire en place et que les Calédoniens ont décidé de rester française. Alors, il y a déjà eu des premiers signes. D'abord, on a eu en mai dernier une déclaration pendant une session qui s'est tenue à Paris en présence des différentes forces politiques calédoniennes, avec une déclaration qui prévoit de toute façon une période de transition jusqu'au 30 juin 2023 pour élaborer un nouveau statut. Donc déjà, on gagne un petit peu de temps, on gagne une petite année. Mais c'est véritablement maintenant que tout commence, parce que on va devoir prévoir dans les textes de loi quel va être le statut de la Nouvelle-Calédonie. Et on sait, Christophe, hein, qu'il y a plein d'options, hein, que le statut de la Martinique, par exemple, est différent du statut de la Guyane, qui est différent du statut de la Polynésie française. Donc c'est véritablement à la fois cette question et administrative et politique qui va devoir être prise en compte par Emmanuel Macron et les dirigeants français.
Alors, qu'est-ce qu'on sait de l'Europe, un peu de tout ça? Donc, si on élargit un peu le débat, l'Europe, la position donc de l'Union européenne par rapport à la Nouvelle-Calédonie, est-ce qu'on est entre guillemets pro-indépendantiste, on est pro pour que la Calédonie reste française? Est-ce qu'en fait l'Union européenne prend même une position ou pas? Quid justement de cette position européenne par rapport à la situation calédonienne? Parce qu'on sait que l'ONU, on sait que les indépendantistes ont été voir l'ONU et la Nouvelle-Calédonie a été mise sur une liste de décolonisation. Est-ce que l'Union européenne a pris une position là-dessus ou pas?
Alors, il y a deux choses qui sont assez intéressantes, Christophe. C'est d'abord que, un peu comme à chaque fois qu'un dossier de l'Union européenne concerne un pays en particulier, on a du mal à voir l'émergence, et c'est bien parce que ça va faire le lien, je nous tease un peu, mais ça va faire le lien avec la déclaration de politique d'Emmanuel Macron. On voit bien que l'Union européenne a un peu de mal à monter au créneau et laisse plutôt les pays se débrouiller. Hein. Et là, on voit bien que pour l'instant, c'est quand même principalement la France. Alors c'est aussi normal, hein, parce que c'est son histoire, c'est son pays, c'est son territoire, mais laisse vraiment la France gérer ça. Ce qui est intéressant, Christophe, ça c'est le deuxième élément, c'est que la position française, mais par extension position européenne, c'est véritablement aussi pas simplement une relation bilatérale entre la métropole et la Nouvelle-Calédonie, mais c'est véritablement inscrire le territoire calédonien dans ce qu'Emmanuel Macron a théorisé ou a promu depuis quelques années maintenant, c'est-à-dire l'axe indo-pacifique. Une ambition en fait géopolitique française, mais de surcroît européenne, avec un axe qui va de Paris, New Delhi, Canberra, mais qui se prolonge aussi, Christophe, jusqu'à Papeete et Nouméa.
On se pose encore la question de Canberra maintenant. Voilà, on sait qu'avec les sous-marins, Canberra, l'axe est là. Est-ce qu'il va sauter au-dessus de Canberra ou pas? C'est la question en ce moment.
Eh ben alors, ça rend en fait la question calédonienne encore plus prégnante parce que effectivement, on a fait quelques numéros d'Europa Voice sur cette question de la relation d'abord France-Australienne avec la crise des sous-marins, mais on l'a même vu hein, après pour le coup, l'Europe était bien montée au créneau, peut-être un peu lentement, mais était quand même montée au créneau et avait dit que évidemment la crise des sous-marins remettait en question la signature du traité de libre-échange entre l'Union européenne et l'Australie. Donc on a effectivement une Australie qui pour l'instant sort un peu des radars de l'Union européenne. Mais finalement, ça ramène encore plus et ça donne encore plus d'importance à cette question calédonienne parce qu'on a d'un côté l'affaiblissement de cet axe indo-pacifique puisqu'on a quand même une pierre angulaire, l'Australie en l'occurrence, avec qui on est dans une relation que je qualifierais de tiède pour le moment. Et en plus, à côté de ça, Christophe, on a quand même des velléités chinoises, on a une Chine quand même en embuscade en Nouvelle-Calédonie qui n'attend qu'une chose, c'est que la Nouvelle-Calédonie devienne indépendante pour que Pékin ne cesse encore et encore d'étendre son influence au sein du Pacifique et près de ces nombreux États du Pacifique. Hein, parce qu'il faut le rappeler, hein, la question de la Nouvelle-Calédonie pour la Chine, ce n'est pas simplement une relation entre Pékin et Nouméa, c'est rajouter à la liste déjà des pays dans laquelle la Chine utilise son soft power, par exemple même Tahiti, mais aussi les îles Salomon, les Fidji, Vanuatu, c'est rajouter encore, c'est fermer encore un peu. J'avais trouvé cette formule assez intéressante dans un article, ce collier de perles mélanésien d'influence de la Chine. Donc ouais, vous voyez, on est vraiment à ce nœud crucial là de la relation France/Europe et Nouvelle-Calédonie.
Mais justement, si on se concentre 30 secondes sur la Chine, Nathanaël, pourquoi ce caillou, le caillou de nickel qu'est la Nouvelle-Calédonie est importante pour la Chine? Je l'ai dit dans la question, c'est le nickel, c'est ces matières premières-là qui sont vraiment qui attirent l'attention chinoise.
Oui, en fait, c'est très simple, hein, c'est très basique, j'allais dire, Christophe, l'intérêt de la Chine pour la Nouvelle-Calédonie, c'est que la Nouvelle-Calédonie, dans cette région indo-pacifique, est le territoire le plus riche en ressources naturelles dont a besoin la Chine, à savoir ressources naturelles, le nickel et la pêche. Et donc, en fait, c'est extrêmement important pour la Chine de pouvoir s'ancrer encore davantage. Donc ça c'est la première chose. Et puis même du côté, si on place la focale du côté calédonien, on sait qu'il y a déjà en fait d'une certaine façon une interdépendance de fait économique entre la Nouvelle-Calédonie et la Chine, parce que on a 73% donc de cette ressource importante qu'est le nickel en Nouvelle-Calédonie, 73% du nickel qui est exporté vers la Chine, qui Chine elle-même en a besoin. Donc vous voyez, Christophe, ce serait en fait véritablement parachever l'interdépendance et une relation, inaltérable entre la Chine et la Nouvelle-Calédonie si la Nouvelle-Calédonie venait à être indépendante. Donc ça, c'est la première raison. C'est d'abord en termes des ressources naturelles. Et puis, deuxième aspect, on a déjà, du côté de la Chine, des prémices comme ça de l'influence dans la région. On a notamment depuis 2016 une association sino-calédonienne qui a été fondée par tous les sino-tahitiens émigrés en Nouvelle-Calédonie. Alors ça paraît assez anecdotique comme ça, mais en fait dessous on a véritablement déjà peur que ce soit le cheval de Troie chinois dans cet archipel. Et on a tellement peur, Christophe, que la France refuse toujours à Pékin l'ouverture d'un consulat de Chine à Nouméa, consulat de Chine qui est déjà présent à Tahiti depuis 2007. Donc vous voyez en fait...
Un institut Confucius, c'est la même chose.
Et un institut Confucius depuis 2013. Donc en fait, si vous voulez, d'une certaine façon, on a un soft power chinois qui est déjà extrêmement présent. On a déjà une dépendance économique qui existe. Et donc, avoir une indépendance calédonienne, c'est véritablement, vous m'excuserez l'expression, ce serait lancer dans la gueule du loup chinois le reste d'influence française ou européenne qu'on pourrait avoir sur cette partie du monde-là. Donc c'est pour ça aussi que c'est pas simplement indépendance, non-indépendance de la Nouvelle-Calédonie et la relation à la France, c'est un véritable enjeu géostratégique et de lutte des grandes puissances dans cette région indo-pacifique.
Il est 13h48, c'est l'heure de l'interview du jour.
Focus aujourd'hui sur l'école française de Melbourne. Alors, certains auditeurs se diront que nous l'avons déjà fait il y a quelques semaines, mais cette fois, on s'intéresse de plus près au programme de l'école maternelle, la Brookville Kindergarten. Nous sommes avec Laurent Marty, un enseignant de cette école maternelle. Laurent, bonjour.
Oui, bonjour Marianne.
Parlez-nous de la Brookville Kindergarten.
Alors, Brookville Kindergarten, c'est une école maternelle australienne au sein duquel il y a une section en immersion complète française. Je suis donc l'enseignant de cette section française. Cette section représente en fait deux niveaux de maternelle, le niveau de petite et de moyenne section de maternelle. Donc, ce sont des enfants qui ont entre 3 et 5 ans. Et c'est en partenariat sur 3 jours donc avec cette famille. Brookville Kindergarten.
Quel est précisément votre rôle ?
Donc mon rôle est tout à fait classique, j'ai envie de dire. C'est le rôle d'un enseignant. Donc je suis exactement, si on était en France, je suis l'équivalent voilà, d'un enseignant de maternelle, donc de petite et moyenne section. Donc mon rôle en fait est évidemment d'offrir aux enfants une opportunité de se développer, de se découvrir, évidemment le tout en français. Et notre philosophie est de passer par le jeu, mais aussi en travaillant par des petits ateliers. Notamment ces dernières années, Brookville Kindergarten et donc aussi la classe de l'EFM. Donc l'EFM, c'est l'école française de Melbourne. C'est une grande association en fait qui soutient les programmes français dans les banlieues de Melbourne. Notre classe, on a adopté la philosophie Reggio Emilia qui est donc développée par Loris Malaguzzi et qui permet en fait de proposer une expérience éducative qui repose sur une vision plutôt humaniste et démocratique pour les enfants. Nous avons aussi l'intervention de spécialistes en français. Donc l'année dernière, et je pense que ce sera aussi reconduit pour 2022, nous avons eu l'intervention d'un spécialiste du cirque qui a permis en fait aux enfants de faire découvrir les arts du cirque à nos élèves, en travaillant différentes activités basées sur l'équilibre, sur le jonglage, qui permet de développer aussi bien la motricité des enfants. Et puis, nous avons aussi eu l'intervention d'une autre spécialiste. Cette fois-ci, c'était au niveau de la musique, qui a permis aux enfants de développer un petit peu leur oreille et leur sensibilité musicale en jouant de certains instruments de musique. Ce fut des interventions que les enfants ont beaucoup appréciées et que nous reconduirons très fortement l'année prochaine.
Pour le cirque, vous parlez d'Anthony, n'est-ce pas ?
Pour le cirque, je parle d'Anthony, tout à fait.
Nous avons fait une interview de lui, donc une très bonne interview à retrouver sur SBS French.
Très bien.
Si je comprends bien, le rôle de cette maternelle bilingue, c'est donc de promouvoir la culture française auprès des enfants qui vivent en Australie, c'est bien ça ?
Tout à fait. Non seulement de promouvoir la culture française à travers le langage, mais aussi à travers, en effet, les célébrations des grandes fêtes nationales comme le 14 juillet, de promouvoir la culture, notamment culinaire aussi, qui passe aussi, bien évidemment, par l'histoire, etc., etc. Donc, en effet, on essaye de donner un avant-goût à ces enfants qui sont, pour la plupart, bilingues. Et on leur donne en fait la possibilité d'être en immersion complète en français pour que les parents qui le souhaitent puissent avoir des enfants qui développent très bien la langue française.
Vous travaillez en petits effectifs, il y a environ 20 enfants par classe. Quel est le profil de ces enfants ? Est-ce que ce sont des enfants australiens d'origine qui apprennent le français ou est-ce que ce sont des enfants français de famille expatriée ?
Exactement, c'est plutôt la seconde solution en effet. Comme je le disais, notre enseignement est fait complètement français, donc nous utilisons que très très peu l'anglais, voire pas du tout. Parce qu'en effet, le profil des familles qui inscrivent leurs enfants dans notre dans notre école sont plutôt des familles bilingues ou des familles franco-françaises qui sont soit expatriées, soit qui vivaient déjà sur le territoire australien et qui souhaitent en fait promouvoir et qui souhaitent surtout que leur enfant soit dans un environnement français pour pouvoir développer leurs compétences dans les langues françaises, aussi bien en compréhension que l'expression, parce que beaucoup de familles sont parfois biculturelles, qui parlent à la maison anglais et français et s'aperçoivent que très rapidement l'anglais prend le pas sur le français et qui souhaitent justement retrouver un environnement complètement français pour permettre à l'enfant de s'épanouir dans cette langue.
Bien sûr. Et vos élèves ont entre 3 et 5 ans, l'école maternelle, donc. Quels sont les bienfaits de l'éducation bilingue sur les tout-petits ?
L'apprentissage d'une deuxième langue comporte beaucoup d'avantages, surtout si c'est fait à un très jeune âge, puisqu'on sait qu'à cet âge-là, les enfants sont comme des éponges et vont très facilement apprendre les mécanismes, la syntaxe, le vocabulaire, la conjugaison d'une nouvelle langue. Et ça permet aussi aux enfants de développer une plus grande attention, une meilleure mémoire aussi visuo-spatiale. Ça permet aussi d'avoir un meilleur contrôle des fonctions exécutives. Ça permet d'avoir une meilleure capacité de raisonnement, un traitement plus rapide de l'information, une plus grande capacité à s'adapter aux changements, une meilleure exécution aussi des tâches qui exigent des changements, qui servent aussi au suivi, à la gestion de conflits.
Laurent, nous sommes ici en Australien, donc dans l'hémisphère sud. Les vacances de Noël marquent la fin de l'année scolaire. Y a-t-il encore de la place pour inscrire ses enfants pour la rentrée 2022 ?
Oui, bien sûr, nous avons encore de la place pour inscrire les enfants à Broadville et pour qu'ils puissent bénéficier justement de ce programme basé sur le jeu, mais aussi basé sur la recherche et le questionnement. Puisqu'en effet, la philosophie de Brookville, c'est un petit peu la philosophie, ce qu'on appelle la philosophie Reggio Emilia, qui a donc pour but de stimuler la curiosité des enfants et puis de rendre l'enfant capable de faire ses propres questionnements et de pouvoir faire ses propres recherches aussi, d'apporter ses propres réponses par la recherche et par l'information. C'est une très bonne opportunité, en fait, pour les enfants de se développer, de se découvrir et de permettre aussi d'avoir une vision un petit peu plus humaniste et démocratique. Donc peut-être que comparé à d'autres programmes français qui existent à Melbourne, qui sont très basés sur l'académie, qui ressemblerait peut-être un peu plus à un apprentissage, je mets des grands guillemets, bête et méchant de la langue française. Ici, on essaye vraiment de fondre le français et l'utilisation du français, et notamment de l'apprentissage du vocabulaire et de la syntaxe et de la conjugaison du français. Par une approche vraiment interdisciplinaire des savoirs. Et puis, on essaye de travailler autour de projets de recherche. Je sais que, par exemple, pour l'année prochaine, notre grand questionnement va être autour de la recherche du bonheur et à partir, en effet, des intérêts et des réponses des enfants et de leurs envies. Nous allons partir dans différentes directions qui vont nous permettre de développer justement non seulement les capacités linguistiques de l'enfant, mais aussi, bien évidemment, les capacités académiques dont il aura besoin pour avoir une scolarité en réussite les prochaines années.
Alors justement, est-ce qu'il y a une continuité ? Est-ce qu'une fois qu'on est à la maternelle de l'école française de Melbourne, on peut rester en primaire ? Et est-ce que ce cursus est reconnu ?
Bien évidemment, la section française de Brookville Kindergarten fait partie donc de l'EFM, de l'école française de Melbourne, qui chapeaute aussi le cursus bilingue anglais à l'école primaire de Caulfield, à Caulfield Junior College. Et généralement, la plupart des élèves qui suivent notre enseignement ici à Brookville peuvent poursuivre ensuite en primaire à Caulfield, où là, ils auront encore un enseignement bilingue. Donc, il y aura vraiment une journée en français, une journée en anglais, en suivant les programmes à la fois français et à la fois australiens.
Laurent Marty, merci beaucoup.
Je vous en prie, ça fait un plaisir.
Au revoir.
Merci, au revoir.
13h57, les grands titres de l'actualité de ce samedi 18 décembre 2021. 90% des Australiens de plus de 16 ans sont désormais totalement vaccinés. Alors que le variant Omicron se répand dans le pays, le booster est ouvert à tous ceux qui ont reçu leur deuxième dose il y a plus de 5 mois. Les châteaux gonflables désormais interdits jusqu'à nouvel ordre en Tasmanie. Après le décès de 5 enfants jeudi, plus $1 million ont été collectés pour soutenir les familles en deuil. Non aux feux d'artifice et aux rassemblements le soir du nouvel an, instauration d'un pass vaccinal et non plus sanitaire, la France annonce de nouvelles restrictions à quelques jours de Noël. Et en sport, l'équipe de France féminine de handball qualifiée pour la finale de la Coupe du Monde, match contre la Norvège à suivre dans la nuit de dimanche à lundi. C'est la fin de cette édition française. Je suis Marianne Murat, j'ai été très heureuse de passer cette heure avec vous. Merci de votre fidélité. Votre prochain journal, c'est demain, présenté par Jean-Noël Ducasse. Même fréquence, même heure, je vous souhaite une excellente journée. De l'homme auquel j'appartiens.
Aimez, partagez, commentez. Suivez-nous sur facebook.com/sbsfrench.